grand témoin. Heureuse de vous retrouver en ces dimanches pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin. Lui, c'est Monsieur Mbalindi Sassa Emmanuel. Il est député honoraire, chef coutumier. Actuellement, il est vice-président national de l'Alliance des autorités traditionnelles du Congo. Monsieur Mbalindi, c'est un plaisir de vous recevoir dans Grand Témoin. Et merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
Alors avec vous, dans notre entretien, nous parlerons de votre personne. On va vous présenter auprès des auditeurs des Radio Capi qui nous suivent en ce moment à travers tout le pays et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiocapi.net. On va parler de votre parcours politique, de votre fonction de chef coutumier et de vice-président national de l'Alliance des autorités traditionnelles du Congo. Voilà, c'est ça. Mais il y aura une deuxième partie où on va parler actualité. L'actualité aujourd'hui, ce sont les concertations nationales qui se tiennent ici à Kinshasa. Mais on va évoquer aussi la situation sécuritaire dans votre territoire. Territoire d'Ango, dans la province orientale. Exact. On sait que la LRA et les Mbororo commettent beaucoup d'exactions. On va en parler dans cette émission. Mais commençons par une petite, une brève biographie de votre personne. Vous êtes né un certain 21 août 1963.
Oui, madame. Je suis né le 21 août 1963 à Guané, dans le territoire de Ango, district de Bazuélé, province orientale.
Et c'est là où vous avez grandi, vous avez passé toute votre enfance?
Oui, c'est là où j'ai grandi. J'ai grandi à Guané, j'ai fait mes études primaires à Guané, études secondaires à Kisangani et l'université à Kinshasa, à l'Institut Pédagogique National.
Guané, c'est un village?
Guané, c'est un village et le chef-lieu de la chefferie Sassa.
Alors, vous êtes détenteur d'une licence en pédagogie appliquée, option histoire et sciences sociales.
Oui, exact.
De quelle université?
De l'Institut Pédagogique National de Kinshasa.
Alors, parlez-nous un peu de votre enfance. Vous avez grandi dans quelles conditions?
Oui, j'ai grandi dans la cour royale des Avungara. Mon père fut le chef de la chefferie Sassa, qui avait succédé, bien sûr, à son papa. Et j'ai fait normalement mes études. J'ai grandi normalement, comme tout enfant d'un chef coutumier.
Vous avez grandi différemment des autres enfants?
Pas différemment, mais dans la cour royale, vous savez, il y a tant d'enfants qui grandissent, mais l'éducation se fait différemment pour un enfant qui est appelé à régner au trône.
Alors justement, comment ça se passe dans la cour royale?
Dans la cour royale,
il y a des initiations.
Exactement, il y a des initiations. Votre papa devait toujours être à côté de papa. Lorsque vous rentrez de l'école, il vous demande qu'est-ce que vous aviez appris aujourd'hui, qu'est-ce que vous aviez fait. Ensuite, il vous dit, dans la vie, il faut ça, 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 ça.
Il paraît que dans la cour royale, les hommes et les femmes sont séparés, ils peuvent pas manger ensemble.
Exactement.
Ça se passe comme ça aussi dans votre village?
Exactement. Les garçons et les filles ne peuvent pas manger ensemble, c'est séparé.
Pourquoi?
Non, c'est parce que ce sont les femmes qui préparent. Les femmes donnent aux hommes à manger, c'est tout. Il n'y a pas de tabou là-dessus.
Elles ne peuvent pas s'asseoir avec les hommes
non,
pour
non,
manger?
Non, c'est interdit, sinon.
Malgré l'émancipation de la femme?
L'émancipation de la femme.
Tous ces interdits continuent dans votre village?
Ça continue, pour la simple raison que un homme, c'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui cultive les champs, c'est lui qui donne les produits à préparer pour la famille. Donc, la femme doit se concentrer dans sa cuisine pour préparer et donner aux hommes ce qu'il faut.
Vous êtes chef coutumier aujourd'hui, donc ça se passe comme ça aussi chez vous avec votre épouse?
Exactement, ça se passe aussi comme ça.
Vous avez combien d'enfants?
Les enfants, j'en ai 11.
Votre papa a commencé à vous initier depuis, quand vous étiez jeune, quoi?
Oui, depuis le bas âge.
Et vous préparez à devenir chef coutumier?
Exact.
Vous êtes fils aîné ou bien?
Je suis le fils aîné.
Ok. Et vous, vous préparez aussi votre fils?
De temps en autre, oui.
Comment ça, de temps en autre?
Comme ils sont à Kinshasa, à l'université, aux études, les uns à l'école secondaire, les autres à l'université, de temps en temps, on les rassemble, on les prépare, on leur inculque la culture d'abord, parce que c'est la culture qui compte, et leur dit, dans la vie, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça.
Mais est-ce que vous n'avez pas
t'appeler à devenir chef, il faut avoir une conduite donnée.
Mais de plus en plus, les gens commencent à se détourner un peu de la tradition. Vous ne connaissez pas ce problème avec vos enfants, comme ils étudient en ville, avec une autre mentalité.
Non, pour eux, je crois qu'ils doivent combiner les deux et savoir qu'est-ce que c'est la coutume et qu'est-ce que c'est la modernité et tirer toutes les conséquences.
Mais ça ne sera pas facile quand même hein, pour des enfants qui ont passé plus de temps en ville.
Moi aussi, j'ai passé plus de temps en ville.
Hein. Vous vous en sortez facilement?
Je m'en sors facilement.
Non, mais bon, moi, vous êtes né au village.
Je suis né au village. J'ai fait mes études au village.
C'est différent de vos enfants.
Je suis venu faire l'école secondaire à Kisangani. C'est une grande ville. Et l'université à Kinshasa, c'est la capitale. Mais j'ai maintenu les deux.
Quel est le souvenir que vous avez le plus marqué pendant votre jeunesse?
C'est mes études. Lorsque papa m'inculquait, me disait, étudiez, un jour vous deviendrez quelqu'un. Quelqu'un qui devra sauver l'honneur de notre famille. Et c'est ça qui m'a beaucoup plus marqué. Parce que papa ne voulait pas que ses enfants restent à la maison, travaillent à la maison et n'aient pas étudié.
Il tenait beaucoup aux études des enfants.
Il tenait beaucoup aux études des enfants. C'est pourquoi, vous savez, dans notre famille...
Filles et garçons? Ou bien on a privilégié seulement les garçons?
Tout le monde. C'est pourquoi dans la famille, presque tous les enfants on ne fait qu'un diplôme d'État et les autres des licences.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie, monsieur Malindi et Sassa Emmanuel?
Bon, je n'aime pas qu'on me mente, qu'on me trompe.
Vous n'aimez pas le mensonge?
Le mensonge. Il faut me dire la vérité, quand bien même vous aviez commis une faute grave.
Votre plat préféré?
Le plat préféré, c'est le bakin de la viande.
Le quoi?
Le bakin de ça, c'est une cuisine purement zandé. Le mélange de foufou et de maïs préparé à l'état naturel. Lorsque on sort le manioc et le maïs, on le prépare cru.
On mélange le manioc
mélange
et le maïs?
Le maïs cru et le manioc cru. Maintenant, on le prépare.
Et ça s'appelle bakindé.
Bakindé.
Et c'est bon?
Très bon.
Ok, je vais essayer de faire ça à la maison. Donc c'est pas compliqué à préparer.
C'est pas compliqué.
Vous prenez le manioc, le maïs, bouillir ça.
Oui, vous bouillez, vous faites bouillir ça et vous malaxez, ça devient comme le foufou.
Radio Capi, grand témoin.
Pour tous les auditeurs de Radio Café qui viennent de nous rejoindre, grand témoin, vous fait découvrir Mbalindi et Sassa Emmanuel. Il est vice-président national de l'Alliance des autorités traditionnelles du Congo. Il est député honoraire. Parlons de votre parcours politique, je dirais, parce que vous êtes aussi un homme politique. Comment vous vous retrouvez dans la politique? Racontez-nous la petite histoire.
C'était en 1990, lorsque nous sortions de l'université, nous avions dit créer un parti politique qui s'appelait Mouvement National pour la Radiation du Chômage.
Mouvement National pour la Radiation du Chômage.
Oui.
Là, de quelle université de l'UPEN?
Oui, de l'université de l'UPEN. Mm-hmm. Moi, j'étais sorti de l'université de l'UPEN. Je suis diplômé de l'UPEN.
Mm-hmm.
Alors, on a créé ce parti-là avec un certain nombre d'amis qui se trouvaient être conseillers dans des ministères, à différents ministères. Et par la suite, nous sommes entrés à la Conférence nationale souveraine. Et de la Conférence nationale souveraine, nous sommes sortis comme membres du Haut Conseil de la République, Parlement des Transitions. Et c'est de là qu'on a évolué jusqu'à 1997, à l'arrivée de l'AFDEL.
Mais c'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous lancer dans la politique? Il y a une situation particulière que vous avez observée et puis vous vous êtes dit, pourquoi ne pas me lancer dans la politique pour apporter ma petite pierre, ma petite contribution?
De temps à autre, papa me préparait aussi pour faire la politique, parce que lui-même fut député, élu à 82 hein, jusqu'à 87. Et de temps à autre, il m'envoyait, il me disait, voilà, la politique, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Alors, c'est pourquoi j'ai eu le goût de faire la politique.
Et une fois que vous vous êtes retrouvé dedans, Vous avez aimé?
Pas aimé. Bon, nous avions voulu peut-être apporter notre modeste contribution. Si jamais on arrivait au pouvoir, nous sommes dit que dans ce pays, il y a trop de chômeurs. Comment résoudre le problème des chômeurs? Et nous sommes dit qu'il faut créer un parti qui doit lutter pour que le gouvernement puisse résorber ce problème de chômage.
Et ça donnait quoi? Rien.
Juste après, l'AFDEL a interrompu le processus en 97. Nous sommes éparpillés. Personne n'a plus pu mettre au point ce que nous avions.
Mais il fallait continuer avec votre lutte. Qu'est-ce qui vous a empêché de continuer? C'est l'arrivée de l'AFDEL.
Bon, vous savez, après là, tout le monde s'est dispersé. On savait quoi faire. Après l'arrivée, il y a eu différentes sécessions, différentes rébellions qui ont vu le jour et dans les différents coins. À ce moment, j'étais retourné chez moi, au village.
Et donc, quand l'AFDEL est arrivé, quand le régime de l'AFDEL est arrivé, il vous a trouvé chez vous. Vous étiez dans votre village.
Non. À ce moment-là, je me retrouvais ici au Conseil de la République, Parlement des Transitions. C'est à l'arrivée que, vous savez, le Parlement a été dissous. Uh-huh. Tout le monde devait rentrer ce soir. Je me suis dit, bon, moi, je suis chef. Je rentre chez moi, dans ma chefferie. Et je continue à diriger ma chefferie.
Et c'est ça que vous avez fait?
Et c'est ce que j'avais fait.
Mais quelques temps après, vous vous êtes retrouvé dans la rébellion du MLC.
Oui, quelques temps après, la rébellion est née. La rébellion telle qu'elle venait avait quand même une atrocité terrible. Et je me suis dit, non, il faut sauver ma population. Il faut sauver ma population en s'adhérant dans la rébellion pour qu'il n'y ait pas assez de casse dans mon territoire.
Donc vous avez adhéré à cette rébellion pour sauver
ma population,
votre population.
Ma contrée. Et c'est ce qui est arrivé.
C'était pas par conviction, c'était juste pour sauver votre contrée.
Oui, c'était juste pour sauver notre contrée. Par la suite.
Mais vous avez évolué quand même avec le MLC.
Et par la suite, on a évolué. Comme j'étais considéré comme un homme dynamique, on me posait toujours des problèmes à résoudre. C'est pourquoi...
Quel genre de problèmes? Des problèmes qui concernent votre chefferie? Des problèmes qui concernent la gestion du pays ou...
Les problèmes qui concernaient la gestion de la contrée là où nous étions. Que faire devant un problème donné? Et j'ai donné toujours des solutions. Raison pour laquelle on a continué et au dialogue intercongolais.
Sun City?
Au Sun City. Jean-Pierre Bemba a jugé bon de mettre mon nom. Et de là, au retour... Lorsqu'il y a eu unification, nous sommes venus ici comme députés de la transition.
Pour
le compte du MLC.
Du MLC.
Oui.
Tout ça, vous n'avez plus continué avec le MLC, vous avez quitté ce parti politique.
Oui, comme je n'avais pas la conviction de rester dans la rébellion, parce que mon souci...
Mais c'était plus la rébellion, c'était devenu un parti...
Non, c'était...
Politique.
Un parti politique qui venait de la rébellion. Alors moi, je ne voulais plus avoir ce cachet-là. Raison pour laquelle je m'étais retiré pour devenir indépendant. Et en 2006, j'ai postulé comme indépendant dans mon territoire de Ango, où j'ai été élu massivement.
Oh, c'est normal. Vous êtes chef coutumier là-bas. C'est normal que vous puissiez être élu massivement.
Oui, compte tenu de ce que j'avais fait par le passé, sauver la vie des gens suite à la rébellion qui était venue de l'Est. C'est pourquoi peut-être les gens m'ont facilement voté comme ça.
Indépendant proche de la majorité, parce qu'on vous retrouve après le MLC dans
le PPRD. Indépendant proche de la majorité, parce que madame, vous savez, moi je suis chef coutumier, et le chef coutumier émane des institutions de l'État. Et le chef coutumier, c'est le pilier même de l'administration congolaise. Et lorsqu'on est chef, on doit toujours communiquer avec la hiérarchie, qui se trouve être le gouverneur, le ministre de l'Intérieur, et notre chef à nous tous, c'est le président de la République. il doit y avoir un cordon ombilical entre cette hiérarchie-là et nous. Et nous ne pouvions pas continuer à demeurer dans un parti de l'opposition.
Ce n'est pas obligatoire de quitter l'opposition pour adhérer à la majorité, parce que vous êtes chef coutumier. On a vu des gouverneurs de l'opposition, mais...
Non, dans notre cas, vous savez, nous sommes un chef doit être au milieu du village. Il ne peut pas être à gauche ni à droite. Il doit être au milieu pour réconcilier tout le monde. Les affaires qui sont à l'opposition, les affaires qui sont au pouvoir, sont tous nos fils. Et nous devons tous les protéger, nous devons tous les conseiller pour que les choses aillent de l'avant.
Et en 2011, vous vous êtes représenté?
Oui, en 2011, je me suis représenté de nouveau.
Sous la casquette du PPRD?
Oui, sous la casquette du PPRD.
Malheureusement, vous n'avez pas été élu. Est-ce que ce n'est pas le fait de vous présenter sur cette casquette-là que vous n'avez pas été élu?
Pour des raisons évidentes, madame, je n'ai pas été élu parce qu'il y a eu beaucoup d'intox sur le problème de LRA, sur le problème de Mbororo. Alors, les abbés s'en est mêlé et un jour avant les élections, ils ont passé un message pour dire non, voilà, c'est un tel qui soutient, c'est le PPRD et les chefs, Sasa qui soutient le Mbororo, les LRA, et raison pour laquelle nous n'avions pas été élus. Et vous savez, au village, aussi, la population écoute des choses pareilles, et comme il y a eu beaucoup de tueries qui ont été perpétrées par les LRA, à ce moment-là, vous voyez, ça réveille.
Juste ce message-là qu'on a lancé par les prêtres a fait que vous ne puissiez pas être élu. Vous êtes quand même chef coutumier, non? Aimé de votre population, parce que vous m'avez dit, vous avez fait beaucoup de choses pour cette population-là.
Oui, dans ma chefferie, j'ai été élu dans certains points, peut-être, c'est là où je n'ai pas été élu. Et vous savez aussi, il y a eu beaucoup de manipulations. Hein, tout le monde sait aujourd'hui que ces élections-là n'ont pas été crédibles, c'est connu de tout le monde.
Chef coutumier, c'est ça. Alors on va souffler un peu avant de poursuivre notre entretien. Comment vous vous occupez pendant vos moments libres?
Pendant les moments libres, je m'occupe de mes champs. Je suis un grand cultivateur, je suis un fermier, madame.
Vous vous occupez uniquement de vos champs?
De mes champs, de mes affaires privées, c'est tout.
Votre loisir préféré, qu'est-ce que vous aimez?
En tout cas, le football. J'adore bien le football.
Vous jouez bien aussi?
Lorsque j'étais encore petit, je jouais très bien au football.
Maintenant que vous avez grandi, le niveau a baissé.
Vous savez, le niveau a baissé un tout petit peu. On ne fait plus un effort pour ça.
Alors qu'il vous arrive aussi d'écouter la musique?
La musique, quelquefois, mais ça ne m'intéresse pas tellement.
Et les rares fois que vous écoutez la musique, c'est quel genre de musique?
Très souvent, la musique religieuse, la musique de Luambo Makiadi. C'est ça qui m'intéresse, parce que ça éduque la masse populaire.
Alors vous avez parlé des musiques religieuses, on dit souvent que religion et coutume, ça passe pas.
Non, c'est différent.
Différent comment?
C'est différent. La religion, tout le monde, les chefs prient, et la coutume, c'est autre chose aussi. Donc on ne peut pas abandonner la coutume parce que on est chrétien, on prie, non. Et il faut faire la différence entre les deux.
On combine les deux.
Exactement.
Revenons à Luambo. Vous aimez la musique de Luambo parce que ça éduque, comme vous l'avez dit. Un titre de ces chansons qui vous vient à l'esprit, que vous aimez écouter?
Pour le moment, je ne me rappelle plus de ça.
Non, je vous laisse quelques minutes. Vous allez me donner un titre.
Un titre.
On va me faire plaisir, hein. On va écouter une chanson de Luambo Makiadi. Une façon pour nous de vous souhaiter la bienvenue ici à Radio Okapi dans cette émission Grand Témoin. Et j'espère que ça fera plaisir aussi à tous les mélomanes, tous ceux qui aiment la musique de Luambo Makiadi. Merci Alain de nous balancer tout ce que tu peux trouver sur Luambo Makiadi pour le plaisir du chef Sasa.
Oye belinga ba mi pigao, wana tempo temba lo koso. Lelo na ba mi pigao, lo bi e koko mana ba fani. Lo bi na jala ki mon frère, lelo na komi opposition. Oko mi na yembele, lo kola mwane dike bandeko. Nyoso yoko yembelanga, neta binga na nyati liyazi, yo nyati toka mon frère.
De leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin, vous faites découvrir aujourd'hui le chef Malindi Sassa Emmanuel. Il est vice-président national de l'Alliance des autorités traditionnelles du Congo. On va parler actualité, chef Sassa. Vous savez, l'actualité aujourd'hui, c'est dans les concertations nationales. Et vous êtes délégué à ces concertations. Vous venez en tant que autorité coutumière.
C'est ça.
Alors, comment vous percevez d'abord ces concertations nationales? Vous pensez que à la fin des travaux, on va arriver à une cohésion nationale?
Madame, les concertations nationales sont arrivées au bon moment. D'ailleurs, je tiens ici à remercier d'abord et à féliciter le président de la République pour avoir songé à convoquer les concertations nationales en vue de mettre tout le monde ensemble pour discuter, pour parler de ce qui ne va pas dans notre pays et regarder le passé, le présent et ensuite voir l'avenir pour enfin conjuguer tous nos efforts pour mettre hors d'état de nuire les agresseurs de l'Est. Il est très important parce que s'il n'y a pas unanimité, s'il y a toujours divergence, en tout cas nous ne saurons pas vaincre l'ennemi.
Alors, en parlant des divergences, vous savez qu'il y a des partis politiques qui ne prennent pas part à ces concertations nationales. Ça veut dire que la divergence va continuer.
Raison pour laquelle nous lançons un appel pathétique à tous ces partis qui ne veulent pas s'associer aux autres, aux concertations nationales, de venir rejoindre le palais du peuple.
Est-ce que ce n'est pas tard puisque les travaux ont commencé déjà?
Ce n'est pas tard parce que la porte est grandement ouverte. Porte est grandement ouverte pour recevoir tous ces partis qui sont restés en dehors des concertations nationales.
Alors certains qualifient même ces concertations nationales des congrès du PPRD et alliés.
Il n'en est pas question, madame. Il n'en est pas question parce que dans la concertation, on trouve les partis politiques de l'opposition, la société civile, la plus virulente que vous connaissez. Il y a les invités du président de la République, les anciens premiers ministres, les gouverneurs, tout le monde. Tout le monde, en fait. Et même nous, les autorités coutumières, nous sommes là. Et si nous sommes là, ce n'est pas pour venir faire le congrès d'un parti politique. D'ailleurs, ce n'est pas le PPRD qui a fait appel aux concertations nationales. C'est le président de la République, garant de la nation, voyant les dangers venir, il dit non. Mes frères, venez. Venez autour d'une table, nous allons nous réunir, nous allons planifier nos différends pour que désormais nous regardions dans la même direction. Et voilà le but de cette concertation. Alors, il n'est pas question que personne ne dise non, voilà, ça c'est le congrès du PPRD. Non. Non. Ce sont des gens qui n'aiment pas ce pays qui font de telles déclarations.
Alors, vous, en tant qu'autorité coutumière, qu'est-ce que vous allez apporter à ces concertations? Quelle sera votre contribution? D'ailleurs, vous savez, on a plus souvent les chefs coutumiers d'être souvent derrière les milices, derrière les groupes armés.
Au contraire, le chef coutumier a toujours été un homme qui cherche le bonheur de sa population. Vous savez, madame, lorsque à Kinshasa ça ne va pas, mais la répercussion est tellement grave à l'intérieur du pays, sur la population. Parce que rien ne saura se faire si rien ne va à Kinshasa. Comment? Parce que maintenant, vous savez, aujourd'hui, l'autorité de l'État n'existe plus. Chacun fait ce qu'il fait. À l'intérieur, par exemple, les policiers, les militaires se sont substitués aux administrateurs des territoires, à l'autorité des chefs coutumiers, hein, parce qu'ils ont les armes, ils font n'importe quoi. Alors, ce n'est pas normal dans un pays souverain, dans un pays qui se veut démocratique. C'est ça que le président de la République n'aime pas. Raison pour laquelle il a convoqué ces concertations.
Et vous venez pour dénoncer ça, vous, autorité coutumière, vous venez pour dénoncer le fait que l'autorité de l'État n'existe presque plus.
Pas dénoncer, c'est connu de tout le monde. Ce n'est pas au chef coutumier de dénoncer, c'est connu de tout le monde, du sommet à la base, c'est connu. On ne peut pas dire que le chef coutumier est venu aux concertations nationales pour dénoncer l'absence de l'autorité de l'État, c'est connu.
Mais les chefs coutumiers sont venus pour quoi?
Les chefs coutumiers sont venus aussi donner leur contribution pour que les choses aillent mieux dans ce pays. Pour rassembler tous ces fils-là. Parce que tous ces gens-là, qui sont aux concertations nationales, ce sont nos fils, ce sont nos filles. Et nous devons parler avec ces enfants-là pour le bonheur de ce pays. Vous savez, ce pays, s'il n'existe pas, mais nous serons des esclaves. Nous serons des esclaves. Parce qu'il n'y a que ce pays qui nous nourrit. Il n'y a que ce pays pour lesquels on se bat.
Hein? Et donc vous avez espoir que ces concertations vont apporter quelque chose de positif, hein?
Tous les espoirs sont permis, madame. Tous les espoirs sont permis. Nous sommes convaincus qu'à la sortie des concertations, il y aura des résolutions, sérieuses qui vont être prises et appliqué par le président de la République pour la bonne marche de nos institutions.
Alors qu'il y a aussi un autre problème dans notre pays, c'est le problème d'application des textes ou des lois. Beaucoup de gens dénoncent ça. C'est vrai qu'on peut faire des très bonnes recommandations, on a des très beaux textes, mais ne plus les appliquer, ça pose problème.
Je pense que cette fois ici, le président de la République n'a pas convoqué ces concertations pour plaire aux gens, pour plaire aux hommes politiques. Je crois qu'il a le souci de redynamiser les choses, de remettre l'administration sur les rails, de mettre en place des institutions qui vont appliquer correctement ce qui seront décidés aux concertations nationales.
Voilà, une autre actualité, bon, ça reste toujours d'actualité, c'est un problème qui date de depuis longtemps, c'est la situation sécuritaire dans le territoire d'Ango avec la LRA et les Mbororo qui sèment la désolation au sein de la population. Vous, en tant qu'autorité coutumière, qu'est-ce que vous faites pour cette population, pour qu'on puisse mettre fin à cette situation?
Vous savez, madame, les Mbororo sont des peuples éleveurs qui sont venus de la Centrafrique. Ils sont autrement appelés les Mbororo Furata. Alors, du temps de Mobutu, ils étaient venus en 1986. Et ils étaient repoussés par nos forces qui étaient basées à Kisangani. Et en 2002, sous le régime du MRC, ils sont encore revenus. Et c'est à ce moment-là qu'ils n'ont plus eu le temps, qu'ils ont eu le temps de s'éparpiller, hein, et de s'installer suite aux peut-être aux décisions des autorités de l'époque. Alors, notre souhait, nous, est que, à la fin de ces concertations, qu'une résolution puisse sortir de ces forums pour bouter dehors ces envahisseurs. Parce qu'ils sont venus sans la permission des personnes. Donc, ce sont des hors la loi.
Alors vous pensez que ça sera facile? Parce que ça fait longtemps que ces Mbororo vivent dans ces territoires.
Ça ne sera pas facile parce qu'eux aussi, ils sont armés. Ils sont armés. Et quelquefois, lorsque on envoyait le militaire pour les chasser, nos militaires rencontraient des difficultés. Ceux qui voudront revenir, mais qui reviennent par la grande porte, en demandant, par exemple, un visa pour l'installation au Congo. Et non venir par des petites fenêtres pour venir massacrer la population. Vous savez...
Et ceux, par exemple, qui ont fondé de famille avec des Congolais ou des Congolaises ici, quel sera leur sort?
Non. Les Mbororo ne se sont pas familiarisés avec la population locale. Les Mbororo sont toujours dans la brousse. Et ils sortent seulement lorsque... Ils veulent vendre leur bétail pour avoir un peu d'argent et acheter le produit agricole. Mais il y en a qui sont des bandits, qui viennent lorsqu'ils vous donnent 100 francs. Ils disent, non voilà, j'ai déjà acheté tous les champs ici. Et ils viennent en masse pour prendre tout ce que la population avait dans son grenier ou bien dans son champ. Vous voyez la situation. Parfois, lorsque leurs bêtes passent, ces bêtes-là ravagent tout, broutent tout en passant. Et à ce moment-là, la population qui a cultivé son champ reste même réduite et c'est la disette qui tombe, la famine qui tombe dans la contrée et avec toutes les conséquences de la malnutrition que vous savez, des maladies, etc. Et vous savez, dans nos villages maintenant, et les formations médicales sont très peu nombreuses et même lorsqu'on en trouve, il n'y a pas de produits pharmaceutiques.
Alors, vous souhaitez qu'au sortir de ces concertations, qu'une résolution soit prise pour bouter dehors tous ces Mbororo. Est-ce que vous pensez que votre cri sera entendu? Parce que lorsqu'on sait que ces concertations sont beaucoup plus concentrées sur la situation du Nord Kivu.
Pas seulement du Nord Kivu, madame. Là où il y a l'insécurité, le président de la République, Joseph Kabila, a toujours été très sensible. Je pense que les concertataires n'hésiteront pas un seul moment à prendre une décision pour qu'on fasse rentrer ces Mbororo chez eux. Parce que nous n'aimerions pas connaître les mêmes problèmes qui se posent à l'est du pays. Où les gens étaient venus, ils se sont installés, et puis, par la suite, ils se déclarent être de cette nationalité congolaise, alors qu'ils n'en ont pas. Vous voyez la situation. C'est pourquoi nous voulons prévoir cette situation de Mbororo qui perdure. Et à l'issue des concertations, j'espère que nous allons mettre fin définitivement à ce phénomène-là.
Alors, chef Sassa, nous sommes à la fin de notre entretien. Vous avez un message particulier adressé à toute cette population congolaise qui nous suit en ce moment, particulièrement ceux du territoire d'Ango qui vous suivent en ce moment sur Radio Okapi.
Oui, je tiens d'abord à vous remercier pour m'avoir invité dans votre studio, envie de parler des problèmes d'actualité de l'air. Je demande à la population de mon territoire d'Ango de se calmer parce que leur cri, leur souffrance est attendue par les autorités compétentes et que dans un plus bref délai, nous pensons que la situation va se rétablir et même les LRA, parce qu'il y a quelques groupuscules de LRA qui continuent encore à sévir dans mon territoire, entre la rivière Mbomo et la rivière Guané, dans la chefferie Sassa, ils sont là. Nous disons que tout sera mis en marche par nos autorités pour essayer de mettre fin à cette situation-là et permettre à chaque population de vaquer librement à ses occupations.
Chef Sassa, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais chef Mbalindi et Sassa Emmanuel. Il est député honoraire et actuellement il est vice-président national de l'Alliance des autorités traditionnelles du Congo. Merci à Héritier Sidiakala qui était à la mise en onde de micro Kelly Nkouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.